disent parce qu'il y a des milliers de personnes qui après vont sur le site. Hein. Kazakhstan, Ouzbékistan, Canada, etc. À titre d'exemple, 1300 personnes en Ukraine. Bon, c'est assez drôle, mais c'est comme ça. À peu près autant aux États-Unis. Donc, j'ai la responsabilité de ce que je dois dire. Je l'apprends, j'essaye. Donc, l'amour de Jésus, lorsqu'il touche un cœur, qu'il transforme cette vie-là, il en fait un lieu, un oasis de fraîcheur, où l'eau abonde, et alentour c'est le désert. Mais, sans vouloir critiquer les autres, je leur souhaite de devenir des oasis. Je leur souhaite d'avoir cette vie en eux. Et Jésus l'a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Et Jésus parlait du Saint-Esprit qui serait donné lorsqu'il aurait été glorifié, c'est-à-dire mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité et glorifié, c'est-à-dire au ciel. Évidemment, évidemment, le croyez-vous ? Vous n'êtes pas obligé. Moi aussi, je n'ai pas été obligé. Mais ce verset, celui qui me donne la vie, celui qui donne sa vie à Jésus, la sauve. Il ne vit pas dans la peur toute sa vie. Il ne vit pas dans l'égoïsme, l'égocentrisme, ou dans la crainte, des petits projets personnels qui, de toute façon, on les quitte tous un jour. Et parfois, plus vite qu'on ne pense. Un accident de voiture, une maladie, etc. Et il y a beaucoup de misère dans une vie humaine. Et donc, on essaye de s'en protéger ici, le plus possible. Mais ils arrivent, les misères, je pense. Plus que le temps de l'Eldorado est fini, je pense. Alors, il faut savoir se reposer sur ce qui est solide, sur le rocher, non pas sur le sable mouvant. Alors, je vous invite à réfléchir. À 16 ans, j'ai accepté cette parole d'évangile. Bon, je l'ai entendu quand je l'ai pu, mais j'ai eu la pêche, comme on dit, j'avais plus de mélancolie, de sentiments de tristesse, etc. Et je ne m'intéressais plus à tomber amoureux, à droite et gauche, pour en souffrir encore plus après. Parce que j'avais déjà souffert 2-3 fois. Alors, à 18 ans, en refusant de donner la charité à une femme pauvre, une femme qui avait perdu son mari et ses 3 frères, fusillé par les Allemands, un copain à côté de moi m'avait dit « Mais tu sais, quand quelqu'un demandait quelque chose à Jésus, Jésus lui donnait sans demander des comptes. » Et donc, automatiquement, c'est quelque chose qui, pour moi, puisque j'avais lu l'Évangile, que j'avais donné ma vie à Jésus à 16-17 ans, étant à l'Athénée, hein, ça n'empêche pas. Hein, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais touché en plein cœur. J'ai regretté d'avoir dit « Je ne lui donnerai rien, on trouvera tout dans ses chaussettes ou dans son lit. Elle est malade, c'est une malade mentale. » J'ai regretté parce que je n'ai pas eu de compassion et d'amour pour elle. Ce n'est pas l'argent qui comptait, c'était l'amour. C'était la compassion, et c'était s'approcher d'elle et la prendre en considération, d'égal à égal, comme une créature semblable à moi. Malheureusement, elle avait perdu ses êtres chers, fusillés devant elle. Et donc, dans les heures qui ont passé, j'ai été très touché et j'ai eu l'impression, vraiment, la certitude que Jésus était là, qu'il me regardait et qu'il attendait que je décide quelque chose. En attendant, j'avais l'expérience intime, très profonde, que c'était une montagne d'amour infini. Et que moi, j'étais vraiment un crabe. J'aimais quand je voulais, j'aimais à moitié, à un quart. Et parfois, j'aimais beaucoup, mais bon, j'aimais à ma guise. Selon mes opportunités, mes désirs, mes vouloirs, etc. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu. Et alors, j'écoutais de la musique et puis à un moment donné, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus vraiment, vraiment, qui dirige ma vie. Après, les ennuis ont commencé. Ma famille n'a rien compris, ça a été la bagarre, c'était pas simple. On n'en veut à personne, c'est humain. Bon, plus tard, si vous voulez, quand on est jeune, on a 20, 22, 25 ans, on a des hormones, et puis on voit les filles, etc. Les filles s'habillent parfois un petit peu audacieusement, ce qui fait que les mecs, on est vachement fragiles à ce niveau-là. On explose, on s'allume. Bon, il y a des filles qui ne s'en rendent pas compte, mais d'autres savent bien ce qu'elles font. Et c'est une forme de pouvoir qu'elles ont sur nous. Et on se plante souvent, nous les hommes, à cause de ça. Et j'avais demandé à Jésus, d'être mon rocher, pour ne pas tomber dans toutes les folies que je voyais chez mes copains. Toutes les folies. Qui se plantaient, mais d'une façon, et puis qui souffraient. Et les filles aussi souffraient. J'en ai vu qui mouraient de chagrin après leur liberté ou libertinage, je n'en sais pas. Je n'aurais pas à vous dire, parce que je ne veux pas dire de méchanceté. Je suis humain comme les autres. J'ai demandé à Jésus de me garder. Et c'est ça que je vous ai dit, qu'un jour, j'avais demandé à Jésus si je pouvais au moins pour pouvoir résister à tout ça et ne pas déconner, comme on dit, tomber dans la débauche et jouer à l'aventure sexuelle et pseudo-affective si je pouvais voir son visage. Une fois j'ai vu son visage, je vous l'ai dit, je n'ai pas honte. C'est la première fois que je le dis en public, mais c'est ainsi. Je ne dis pas que ça arrive une deuxième fois. D'autre part, ce n'est pas ça qui fait de moi un chrétien. C'est un signe pour encourager un chrétien. C'est différent. Ce qui fait d'un chrétien, c'est le fait qu'il s'est donné à Jésus. Jésus qui est vivant aujourd'hui. Et ce qui fait d'un chrétien, c'est que s'il s'est donné, il aime lire l'Évangile, il aime écouter ce que Jésus lui dit. Et il aime faire sa volonté. C'est ça être chrétien. C'est pas avoir des visions, des faits extraordinaires. Si un fait extraordinaire arrive, c'est pour encourager. Mais s'il n'y en a plus après, s'il y a des grandes épreuves, il faut toujours aller vers le Seigneur et l'aimer. Donc, il n'y a pas eu que des roses, il y a eu beaucoup d'épines. Donc, ne prenez pas à la légère ce que j'ai dit quand j'ai vu une fois le visage du Seigneur. C'est pas pour dire que moi je suis Saint Thérèse d'Avila ou Bernadette de Lourdes, ou, etc. Ou les voyantes de Banneux, de Beaurain. Non, merci, je ne joue pas dans ce rayon-là. Alors, mon expérience de pêcheur a été grande. Et quand, moi qui aimais m'engager auprès des pauvres, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, j'ai décidé d'être prêtre pour le monde qui n'était pas dans les églises. Donc, ce qu'on appelle les prêtres-ouvriers. Et donc, étant prêtre-ouvrier, j'ai participé une fois à une retraite à Floreffe, dans une très vieille église de style, et un de mes amis, Marie-André du Carme, je pense, jouait de l'orgue, il jouait très bien. Lui, il était prêtre-ouvrier à Liège, et nous avions eu une retraite de 2-3 jours sur le Saint-Esprit, magnifique, par un patriarche orthodoxe, mais magnifique, très profonde. De la véritable nourriture pour l'âme, pour ceux qui vraiment ont accepté Jésus et l'aiment. C'était nécessaire. Alors, parce que dans les usines, sur les chantiers, tout ça, quelle misère on rencontre. Quelle chose. Puis les gens nous parlent. Ils nous invitent dans la famille. On voit tellement de choses. Et il faut rester fidèle au Seigneur avec tout ça. Et puis il faut apporter quelque chose. Il faut apporter la joie, la paix du Seigneur. Si même parfois on ne sait pas encore en parler, il faut quand même en rayonner. Un fourneau, dans une maison, quand il réchauffe la maison, il ne parle pas. Mais je pense qu'un chrétien, même s'il ne parle pas, il rayonne comme un fourneau. Parfois, à certains fourneaux, il y a un carreau, et on voit la flamme. Et quand on voit la flamme, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on voit la joie dans ses yeux, dans son cœur, et puis il ne se traîne pas, ce n'est pas un triste saint. Hein? Bon, voilà, un fourneau avec ou sans carreau, ça rayonne, ça chauffe et ça éclaire s'il y a des vitres. Alors, un chrétien, c'est certainement comme cela. Dans un monde glacé, sans signification, où il n'y a plus que le fric qui compte, et puis on est dirigé par qui? Par quoi? C'est pas facile. C'est pas facile. Faut prier pour eux, parce qu'ils pédalent. Ils pédalent dans le vide, je pense, bien souvent. Ils ne savent pas où ils vont. De jour en jour, ils changent les règles, etc. pour le Covid, ils changent les lois pour ci et ça. Ils ne savent pas où ils vont. Donc, ils improvisent. Où va-t-on aller? À la longue, dans l'improvisation, où va-t-on aller? Dieu, lui, n'improvise pas. Et donc, lors de cette retraite, André-Marie Jouet, je m'introduis dans l'église, je laisse 10 cm à la porte, une grande porte, immense, en chaîne. Il joue jusqu'à 11h15, 11h30, et puis il arrête. Il avait joué du Bach, de tout, de la toccata, il avait tout joué, il jouait formidablement. J'étais là, assis, j'écoutais. Lui en haut, moi en bas. Et il ne savait pas que j'étais là, il faisait noir. Il avait juste une lampe sur l'orgue. Et quand il est descendu, il est parti, il a laissé la porte comme elle était, et je suis resté toute la nuit là. Toute la nuit, je ne me suis pas endormi. Pourtant, je devais partir à 6h15, partir travailler, je devais être à 7h à l'usine. 6h10, partir, en vitesse, avec mon vélo. Et durant cette nuit, j'étais bien, j'étais en paix, et je parlais avec mon Seigneur Jésus. Parce que depuis que j'ai rencontré cette pauvre femme, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur quand j'ai accepté. Je lui parle, il me répond. Dans mon âme, j'entends rien aux oreilles, mais dans mon âme, j'ai des réponses, souvent. Et c'est formidable cette relation. Ça serait la chose la pire pour moi si je la perdais. Et si vous voulez, je pense que je ne la perdrai pas, sauf si je fais de redoutables péchés, des égarements très graves. Mais ce qui s'est passé cette nuit, j'étais dans une immense paix, je me laissais, j'étais assis. Parfois je m'étais debout, parfois à genoux. Et à un moment donné, tout doucement, une immense lumière s'est mise dans l'église, sur tous les murs, sur tout ce qui était dans l'église. Les lampes n'étaient pas allumées, c'était comme de la neige remplie de lumière. Dans un silence incroyable. Toute la nuit, j'ai baigné dans cette lumière, dans ce repos. Incroyable, les amis. Je vais vous dire une chose. Je sais ce que c'est que le repos éternel. On ne s'y ennuie jamais. Ce que Jésus vous propose, ce que j'ai goûté là, ce que j'ai vu, que je n'ai vu qu'une fois, toute une nuit, parce que quand je suis parti à 6h10, j'ai pris mon vélo, j'ai été travailler à 7h, je voulais être là. Moins 5, à la pointeuse. Eh bien, pratiquement, chers amis, j'étais pas fatigué. Je n'avais pas dormi 5 minutes. Et donc, le Seigneur Jésus renouvelle les forces. Le Seigneur Jésus est présent et il donne la paix. Il est la lumière du monde. Et quand Jacques dit dans son épître, qui Dieu, notre Père, est le Père de toutes les lumières sans variation, au chapitre 1 de l'Épître de Jacques. Eh bien, je peux vous dire que c'est vrai. Ça n'a jamais bougé, la lumière.
André, est-ce que je pourrais te demander...
C'est immense. Cette lumière n'était pas agressive, n'était pas violente, ce n'est pas des lamblettes. Et ce n'est pas des lumières qui tuent.
Oui, merci beaucoup.
C'était des lumières de paix. Douce. Comme du velours, et un bien-être en mon âme. Alors je vous le dis à vous, si vous êtes malade, si vous avez pris beaucoup d'âge, et que vous n'êtes pas loin de partir vers le Seigneur, vous n'avez rien à perdre. C'est beaucoup mieux avec le Seigneur que sur la terre. Et sachez-le bien, si vous mourrez jeune, dans un accident, vous avez donné votre vie à Jésus, ou par le Covid, ou n'importe quoi, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes dans ce repos céleste. Et là, c'est pas de la blague. Je ne sais pas pourquoi, dans ma vie, ces choses sont arrivées. La fièvre typhoïde que je voyais l'enfer, qui m'a permis d'éclairer mon Père, et cette lumière douce et paisible, mais intangible, invariable. Et c'est ainsi que j'ai été frappé par des choses. À mon avis, les apôtres ont connu cela. C'est pour ça qu'ils en parlent avec des mots très forts et très humbles en même temps. Très humbles. Voici, 1 Timothée, chapitre 6, verset 13. « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose, voyez, à votre chat, à un oiseau, à un rouge-gorge, un rossignol, etc., un ver de terre, à vos enfants, à moi, à votre grand-père, à votre grand-mère. » Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette seconde venue, qui, moi, ne vit n'est pas loin. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc Dieu le Père est appelé roi des rois, seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors je prends Jacques, évidemment, Jacques après Hébreu, parce que ces paroles ne sont pas du bidon. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ne vous y trompez pas. Jacques 1, 16. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et vous avez comme ça, dans plein de passages de la Bible, des textes qui nous disent que Dieu est lumière et Jésus est la lumière du monde. Jean chapitre 8, Jean chapitre 1. Et voilà. Donc, cette expérience, pourquoi je la partage? Pour que vous ayez la paix, que vous ne trembliez pas devant les inquiétudes que l'on ressasse tout le temps et qui démolisse. Je voudrais que votre foi soit vivante, que votre foi soit branchée sur le vrai Seigneur de paix et de lumière, le Prince de la vie, et pas sur un vide ou des croyances religieuses montées là, bricolées par papa, maman, etc., et puis qui ne tiennent pas quand vient l'épreuve. Vous avez besoin de ce Dieu vivant, comme moi, et je ne le lâcherai jamais, quoi qu'il m'arrive. Je vous souhaite du fond du cœur, il ne s'agit pas d'avoir une basilique, une cathédrale, une mosquée, un temple pour être heureux. Il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie. Alors, je vais continuer les expériences où je pense que Jésus a été tout puissant pour m'éclairer. À travers tous ces travaux dans les usines, avec des hommes assez rudes, il y avait juste un homme qui allait à la messe dans toute l'usine où j'étais. Et un homme qui était témoin de Jéhovah. Tout le reste, c'était rouge, socialiste, communiste. Mais ce n'est pas pour ça que c'était des diaboliques. Pas du tout. Quand il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient négligées pour le bien des ouvriers, les ouvriers ont décidé de construire un syndicat. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient vraiment envie que ça change, mais pas violemment, avec paix. Et ils m'ont demandé de faire une liste. Et ils m'ont mis sur la liste avec deux autres. C'est le personnel de l'usine qui l'a fait. Nous avons été votés tous les trois à 98%. Et nous avons conduit les choses de manière honnête envers le patron et envers tout le monde, sans animosité. Et on a obtenu beaucoup de choses. Des souliers de travail, des souliers de sécurité, des bleus, et que les bleus soient lavés toutes les semaines, parce que c'était terrible en construction métallique. Et puis des ventilateurs, des échelles, des moyens de monter, pas pour se casser la figure à tout bout de champ. Et des ventilateurs là où on soudait, etc. Et des tabliers de cuir, parce que j'ai vu un homme prend de feu pendant qu'il soudait, il s'en rendait même pas compte, c'est moi qui courais après lui pour éteindre le feu. Il soudait toute la journée, il faisait chaud, et il prenait feu par derrière. Il s'en rendait pas compte, il allait se rouler par terre et puis tomber après, de hauteur. C'est moi qui j'avais envie vraiment qu'il y ait la paix, la sécurité, le bien-être, la justice là. Et je pense que ces hommes qui étaient des rudes gaillards, vous savez, on ne leur en comptait pas. Eh bien, ils m'avaient choisi comme délégué principal parce que je portais cet esprit de justice en moi et de paix. Ils ne cherchaient pas une tête brûlée pour faire du communisme à tout feu et pour satisfaire aux besoins d'un parti qui était derrière ça, mais c'est simplement, ils avaient voulu une dignité. Et je vais vous dire une chose. Si vous travaillez quelque part et que vous avez Jésus dans votre cœur, vous apporterez de la dignité aux autres. Et ils auront besoin de vous. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pas avec un esprit d'orgueil et de présomption qu'on apporte de la dignité. C'est dans le respect, c'est dans le partage. Et c'est avec l'approbation des autres. C'est pas en s'imposant. C'est une expérience. Bon, un autre événement, je dois vous dire, c'est que je passais régulièrement, parfois, avec deux ponts roulants en main, au-dessus de la tête des personnes avec 15-20 tonnes. C'était horrible. J'étais rempli de transpiration dans le dos parce que je savais les risques que je faisais courir aux autres. Je vérifiais tout et puis quand je levais les charges avec les deux ponts, tellement c'était lourd, je passais au-dessus de la tête de tout le monde. Et je passais lentement sans rien dire. Et j'ai vu, alors que j'étais nouveau, et moi qui avais fait des études, qui n'étais pas né là-dedans à 13-14 ans, parce qu'il y a des gars qui travaillent depuis l'âge de 13-14 ans dans ces ateliers, cette usine. Eh bien, ils faisaient confiance. Et en passant un jour, je vois deux hommes que je voyais toujours d'habitude, avec des revues, des photos de femmes nues, etc. Mais enfin, assez horribles les photos. Et je passe, je leur dis, mais vous en aurez bientôt fini avec ces cochonneries-là, on n'en a eu pas marre. Ça m'a sorti du cœur. Ça faisait déjà deux ans que j'étais avec eux. Ça m'a sorti du cœur, gentiment. Gentiment. C'est le Seigneur qui me poussait à le dire. Et je plains vos femmes quand vous rentrez. Mais je n'ai pas été donner un coup de marteau sur leur tête ou quoi que ce soit. J'ai continué mon chemin. Et puis plus tard, je suis repassé avec autre chose, le pont roulant. Puis après, sans le pont roulant, je passais avec des outils, parce que je fournissais tous les postes. J'allais fournir avec un homme analphabète, très courageux, mais pas trop malin, excusez-moi du mot. On fournissait tout le monde, tous les postes. Il fallait que tout tourne rond. C'était donc important ce qu'on faisait pour que l'atelier, l'usine soit rentable. Et donc, il fallait veiller à tout. Et quand je repasse, ces deux hommes me disent, mais Jean, est-ce que tu pourrais t'arrêter pour qu'on te parle? Ouais, oui, d'accord, je repasse. Et après, une demi-heure après, je repasse et, tu sais, Jean, il ne faut pas croire ce qu'on est, hein, avec les photos là, hein. Tu te trompes, hein. Ben, écoutez, moi je vois des gosses là, qui font de la neige, ils font du traîneau sur la neige. Vous avez vu, il y a des oiseaux et tout ça. C'est magnifique la nature. Pourquoi est-ce que vous mettez des photos comme ça? Moi je dis, il y en a marre. Il n'y a pas de respect pour les femmes avec ça. Et on est avec ça toute la journée là, pendant 8 heures tous les jours. Une vraie femme qui est digne de ce nom ne s'habille pas comme ça. Alors, ben oui, Jean, on veut bien les tirer, mais il faut que tu saches, c'est que on est malheureux. Alors, un parle, il s'appelait André, oui, il me dit, écoute, tous les jours, à 4h30, quand je rentre du boulot, on commence assez tôt, hein, 7h, 4h30, ma femme étouffe. C'est comme si on l'étouffait à la gorge, elle l'étouffe, elle hurle. Et je ne peux rien faire, je suis malheureux. On a été voir les docteurs, les psychiatres, on ne sait rien faire. Et son copain, c'était un très bon copain, René, à côté de lui, il compatissait. Ils étaient toujours dans le même poste de travail ensemble. Des gens très compétents. Hein. Très, très compétents. C'était précieux pour l'usine. Et donc, je dis, écoutez, il me pose la question, est-ce que tu penses que le diable existe ? Moi, je fais une réponse à la jésuite. J'avais eu des cours là-dessus. J'avais eu un conseiller spirituel pour me former, qui avait de l'expérience là-dedans, qui m'en avait parlé. Mais j'ai dit une réponse de jésuite, c'est-à-dire, bah, on m'a toujours dit que si quelqu'un m'en parlait, je ne devais pas me moquer, que je devais l'écouter. Alors, j'ai écouté. Et évidemment, je me suis rendu compte que c'était sérieux. J'avais déclenché par ma remarque, une heure avant, quelque chose. J'avais ouvert une porte, sans le faire exprès. C'était Dieu qui m'avait poussé à le faire. Et je dis, vous savez, Satan existe, j'en suis sûr. On me l'a enseigné, il est dans la Bible. Voulez-vous que je prie pour ta femme, André? Vous voulez bien tous les deux? Oui. On sait que tu as la foi, toi. Oui, on veut bien que tu pries. Alors, vous me permettez? Alors, j'ai prié, naturellement. J'ai prié notre Père des cieux, Père chéri, Père céleste, toi qui nous aimes tous, qui nous as tous créés, je t'en prie, protège Henriette, délivre-la du malin qui l'attaque, la détruit. Seigneur, et si quelqu'un jetait des sorts sur elle, qu'il s'en aille, qu'il ne revienne plus dans cette maison. S'il y a des objets maléfiques qui ont été donnés, Seigneur, qu'ils soient jetés, qu'on les trouve et qu'on les jette. Je te demande cela, Père chéri, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui est mort sur la croix, qui a vaincu Satan. Amen. Je prie comme ça en pleine usine, entouré de communistes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le lendemain, ils sont revenus. Ils avaient tiré toutes les photos. Et André m'a serré dans ses bras, en me disant, ça fait 12 ans que ça durait et c'est fini. Quand je suis rentré, il n'y avait plus rien. Alors je lui ai dit, continue à prier pour ta femme, comme j'ai prié moi. Alors je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la sorcellerie dans ta famille? Oui, il y a une vieille tante qui parfois vient. Et elle a donné des choses, des cadeaux. Tu vas tout donner, tout mettre au fond du jardin. Elle est brûlée au nom de Jésus. N'a rien gardé. Rien. Et je continuerai à prier pour toi, André. André et René ont parlé, évidemment. Pendant qu'on travaillait, moi, je n'ai pas fait le tour des autres pour raconter ça. C'est resté entre eux. Mais eux en ont parlé. Et lorsque j'ai quitté l'usine, ils m'ont dit, Jean, veux-tu un cadeau? Je dis, je n'ai pas besoin de cadeau. J'ai tellement l'amour de Jésus en moi que j'ai tous les cadeaux et je vous aime. Mais ma Bible est foutue, elle est fichue. Si vous voulez, donnez-moi de l'argent que je puisse en racheter une. Ils ont fait une collecte, eux, communistes et socialistes, ils m'ont donné l'argent pour acheter une Bible. Avec toutes les notes de l'Ancien et du Nouveau Testament, les notes d'études. Chers amis, avec Jésus, on ouvre des portes dans les cœurs. Je n'avais rien fait pour leur casser la tête. Je ne suis pas parti en leur tapant de l'eau bénite, en leur disant d'aller à la messe ou au culte. Je n'ai rien dit. Seulement Jésus a touché leur cœur. Ils n'avaient qu'à se tourner vers lui. Et si réellement ils sont touchés par Jésus, eh bien, sur leur chemin, ils vont rencontrer d'autres que moi. Ils vont peut-être rentrer dans une bibliothèque, une librairie, trouver une Bible et l'acheter. Et puis ils vont se mettre à lire. Et puis ils vont être responsables d'eux-mêmes. Ils vont chercher. Naturellement, si j'habitais dans la région, je serais resté dans la région, je les aurais visités, je les aurais aidés à lire la Bible. Mais je suis parti dans ma Gaume natale, croyant pouvoir changer ma chère Gaume. Je n'ai pas changé grand-chose en Gaume, parce que les esprits sont bien plus durs que ceux des communistes et des socialistes avec qui je vivais. Tous ces gens étaient pauvres. Et avant d'inviter un copain de travail à l'usine, quand on l'estimait dans le travail, si on l'invitait, on ne le réinvitait pas tout de suite. C'est la femme qui disait, cet homme-là est honnête, il ne vient pas pour mettre le bazar dans la maison chez nous, tu peux lui demander de revenir pour manger. Ce que je veux vous dire, c'est que quand Dieu ouvre des portes, les hommes, même ceux qui ne sont pas religieux, et surtout ceux-là, reconnaissent la lumière de Jésus. Et je vous disais, J'ai été invité dans des couples, dans des familles, parce que la femme avait donné son accord pour que je revienne. Parce que dans ces familles-là, on était très méfiants, super méfiants des curés, super méfiants de tout ce qui s'appelait chrétien. Et je les comprends. Si vous voulez être chrétien, il ne faudra pas jouer la comédie. Il ne faudra pas jouer la comédie. Il faudra faire le jeu jusqu'au bout. Avec Jésus. Et Jésus est vivant. Alors, ils le reconnaissent. Alors, ils veulent bien votre visite chez eux. Et je vais vous dire, quelqu'un qui habitait de Jésus, beaucoup l'accueillent. Même s'ils ne se convertissent pas, ils ne savent pas pourquoi. Mais parfois, plus tard, ils vont connaître le salut, la vie éternelle, grâce à ces rencontres, à quelques échanges, à quelques mots. C'est très important de vous dire que la vie éternelle est sur terre lorsque quelqu'un a accepté Jésus sur terre. La vie éternelle, la lumière du monde est sur terre. Et c'est la destination spécifique de l'Église de Jésus-Christ, telle qu'elle a été voulue par Jésus. Alors, j'ai été prêtre ouvrier, mais je suis revenu dans ma région. J'ai accueilli beaucoup de jeunes à la maison, je vivais avec un autre ami prêtre, nous avons reçu des centaines de personnes, surtout des jeunes. Et puis, en travaillant sur les chantiers, il m'est arrivé sur le même mois 4 accidents graves. À l'entrée de Mussy-la-Ville, alors que la route était beaucoup plus étroite qu'actuellement, la route était mouillée, un bus était en face et prenait toute la route. Donc j'ai fait ricochet, j'ai visé le coin du bus, plutôt que la collision frontale, et j'ai été dans un bus. J'ai échappé à la mort ce jour-là. 8 jours après, je suis sur le chantier, dans une tranchée, à 3-4 mètres de profond, et quelqu'un vient et hurle, « Jean, je vous donne l'ordre de sortir. » C'est un nouveau chef de chantier qui faisait du spiritisme, etc., du magnétisme, et qui était à l'autre bout du chantier. Je suis sorti, j'ai grimpé sur l'échelle que j'avais confectionnée avec des bouts de bois, j'ai bondi, puis j'ai reculé, j'ai vu la terre se fendre, toute la tranchée sur 50-60 mètres se reboucher. Et j'ai demandé à cet homme pourquoi il m'avait donné cet ordre. Lui d'abord m'a demandé « Pourquoi tu as répondu tout de suite, tu es sorti tout de suite ?» Mais j'ai vu que c'était sérieux. Et parce que je t'aime beaucoup, je sais que tes paroles sont sérieuses. Alors que les autres se moquaient de lui parce que c'est un jeune chef de chantier, j'avais toujours dit aux copains de boulot « Ne vous moquez pas de lui, laissez lui faire son métier, son expérience, il en a besoin, même si vous êtes plus âgé. » Alors, après il répond à ma question « Eh bien j'étais là-bas, auprès des autres équipes, à 100 mètres, quand il y a une force qui m'a lié sur place, j'étais debout, qui m'a fait tourner la tête vers la tranchée, la machine, la grue que je voyais, je ne te voyais pas, et une pensée, une voix qui me dit dans mon esprit, « Jean, j'ai couru. » J'ai simplement dit, « Jean, je vous donne l'ordre de sortir. » Ça, c'est le deuxième miracle. Le troisième miracle, c'est que, encore 15 jours après, dans ce chantier, c'est une grande zone à bâtir, en Mussy-la-Ville. Le chef d'équipe, pas chef de chantier, me dit, la maison est faite, on a essayé de faire le raccordement aux égouts, va un peu dans la tranchée, va voir sous la route, creuse, pour trouver l'égout. Et puis, il fait le raccordement. Bon, je travaille, et à un moment donné, je vois des petites boules, un pressentiment, un frisson, je cours comme un lapin, et je me trouve à moitié de parcours, je n'étais plus sous la route, à mi-parcours, encore à 1,50 m, enterré, coincé dans la terre, et tous les copains qui tiraient sur moi n'y arrivaient pas. Il a fallu les pelles, les pioches pour me dégager. Les jambes croisées, j'ai eu mal 3 semaines. Je n'ai jamais pensé à Dieu, alors que j'étais prêtre ouvrier. Je n'ai jamais pensé à Dieu, je n'ai jamais dit merci. Après 3 accidents importants. 4e accident. On m'envoie avec un copain napolitain, un homme plus âgé que moi, sur un chantier à Saint-Léger, dans une maison qu'une autre équipe avait faite, mais les hauteurs d'Alèche, c'est-à-dire la maçonnerie des fenêtres, étaient de 30 cm trop haut, partout. Et on nous avait donné quelques heures pour démolir toutes ces fenêtres, les remettre à hauteur. Pour avoir plus facile, je saute, je mets un califourchon et je tape à la massette, la petite masse, de côté gauche, de côté droit, avec les deux mains. Et ça va vite. Quand on a 30 ans, 32 ans, on est plein de force. Et l'autre gars, qui était plus âgé, n'était pas monté à califourchon sur les murs. Il faisait ça au burin, au marteau, et était un peu fatigué. Il vient pour se reposer, et il est là, dans l'entrebâillement d'une porte, et il fume un joint, une cigarette, et il dit « Ça va, Jean ?» Et puis il dit tout d'un coup, je vois sa tête, « Jean !» Juste Jean. Je saute, je me fais rouler par terre, et il me dit « Mais qu'est-ce que t'as fait pour réagir aussi vite? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Comment? Qu'est-ce qui t'a pris de répondre aussi vite ?» Eh bien, je vais vous dire ce qui s'était passé. Le patron avait envoyé un tout jeune démonter une grande grue de chantier, comme vous voyez, avec la flèche. Et il s'y était mal pris et la flèche tombait. Et l'ombre, le soleil, produisait une ombre sur la maison. Et l'ombre descendait avant la flèche, avant la grue. L'ombre descendait. Et le maçon en question, Antonio de Longuillon, qui a crié Jean, il a vu l'ombre, il avait compris que la grue tombait et que la grue passait sur la maison. Si je n'avais pas sauté, la grue me coupait en deux, moitié dehors, moitié dedans. Chers amis, j'ai échappé à 4 accidents et je me suis dit ceci. Pourquoi est-ce que je vis encore? Qu'est-ce que j'ai à faire sur la terre? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Moi, je croyais qu'il me suffisait d'être prêtre ouvrier, d'accueillir des jeunes, de rendre service, etc., de faire une messe le samedi, d'encourager les gens, d'être charitable. Mais qu'est-ce que Dieu veut de plus? Quel avertissement il me donne? Plus tard, je n'ai pas compris tout de suite. Et vous avez vu la puissance de Dieu pour m'avertir qu'il voulait me faire signe. Vous aussi, vous avez des signes. Mais on ne les comprend pas toujours, tout de suite. On a beaucoup de signes de la part de Dieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il est puissant. Mais nous sommes tellement stupides. Ésaïe l'a dit. Stupide jusqu'à quand? Aimerez-vous la stupidité? Ésaïe, le prophète Ésaïe, 8 siècles avant Jésus. Et donc, beaucoup plus tard, je prends la décision de me marier. Pourquoi? Parce que la situation des prêtres dans la sexualité, dans l'affectivité, n'était pas claire dans la région. La réunion des prêtres, on n'y priait jamais, on n'y parlait jamais de Dieu, on mangeait, on buvait. Et d'autre part, chacun avait sa vie privée désordonnée, à part deux, très âgés. Je vais faire rapport de tout cela aux responsables en disant « Mais il vaut mieux se marier. Il vaut mieux se marier. Jésus ne demande pas des situations pareilles. » La première fois, on me dit « Mais vous pouvez avoir une petite aventure de temps en temps, c'est pas grave. » L'année d'après, j'insiste, j'y vais, et on me dit « Mais vous savez, donc ils étaient au courant. » J'ai dit tout ce que je savais. Vous pouvez choisir Luther. Donc j'avais mon ticket de sortie et j'étais dehors en me disant, Seigneur mon Dieu, il ne t'aime pas, il n'aime pas Jésus, il n'aime pas les personnes. J'étais avec mon Jésus dans mon cœur en train de souffrir devant des religieux qui n'avaient rien compris à Jésus et à la sainteté qu'il demande et à la vérité qu'il demande. Ces responsables religieux ne demandent que des actes religieux répétitifs. C'est ça la religion. sans fondement aucun, sans Jésus-Christ réellement, c'est que des mots. À part quelques-uns, j'ai eu des amis prêtres qui foncièrement avaient la foi et une vie en Jésus. C'est toujours possible. Il y a toujours des exceptions partout. Mais ce qu'il y a, je vais mon ticket de sortie. En étant marié, j'ai fondé une entreprise. Et puis j'ai pris goût à l'entreprise, en autogestion, etc., un idéal formidable. Et puis j'ai aidé d'autres à fonder des entreprises. Et puis tout d'un coup, tout tourne mal. Et vous savez pourquoi? Parce que dans l'entreprise où j'étais, l'ingénieur qui travaillait au bureau, vraiment le super bras droit, sur tout reposait sur lui. Après plusieurs années, tout reposait de plus en plus sur lui. Vient un jour en visite avec son épouse, me visiter ma femme. Et puis, après un certain temps d'avoir bu le café, parlé, il dit, « Jean, je voudrais bien te dire une chose. J'aimerais bien que tu ne crois plus en Jésus ressuscité. Mort sur la croix et ressuscité. » Ma femme et moi, nous étions stupéfaits. Interloqués, mais pas fâchés. Étonnés. Il a dit, « Si tu continues à croire avec ta femme en Jésus-Christ, comme ça, mort et ressuscité, qui est ressuscité, moi je quitte l'entreprise, je ne reste plus ici. » Je regarde ma épouse, on se regarde, et puis on regarde notre Dani, notre cher Dani, qu'on aimait, avec qui je travaille tous les jours, l'homme de confiance. Je dis, mais mon cher Dani, je ne renoncerai jamais à Jésus ressuscité. Alors je sais que je quitterai. Un peu après, il quittait, et tout doucement, ça a été la dégringolade. J'ai dû quitter l'entreprise que j'avais fondée, parce qu'il n'y avait plus cet homme sur qui je me reposais, sur qui j'avais fondé beaucoup d'espoir et de confiance. À cause de Jésus ressuscité, j'ai perdu des choses matérielles considérables. J'ai perdu l'estime de beaucoup de gens qui m'entouraient. C'est seulement 15-20 ans après que ce Dani est revenu humblement à la maison, dire bonjour, et puis nous inviter à revisiter sa famille. Chers amis, que s'est-il passé pendant tout ce temps-là pour lui? Pour moi, il s'est passé quelque chose, et pour ma femme. C'est que dans toutes les souffrances qui ont eu lieu, nous avons rencontré un jour, est venu à notre porte, un groupe de chanteurs évangéliques qui ont joué de la guitare, des jeunes. J'étais pas là. Ma femme l'a dit, repassez tel jour, mon mari sera là. J'étais là, je les ai écoutés. 2 mois après, j'étais très affairé. J'étais très attaché à Jésus, mais pour finir, en étant très affairé, affairisme égale affaire du diable. Jésus était au placard, sans que je m'en sois rendu compte. Jésus était au placard, les amis. Pourtant, j'avais eu de puissants signes. Lui, que j'aimais tant, était devenu super secondaire. Une tête d'affiche, si vous voulez. Et donc, deux hommes sont venus, ils nous ont parlé de Jésus, etc. Et ils sont partis, et ils nous ont dit, tu veux les garder tous, tu les perdras tous. Et effectivement, c'est arrivé. Je ne savais pas pourquoi ils me disaient ça. Eh bien, je vous explique pourquoi. Un ami catholique nous invite à une réunion à Natoua où il y avait beaucoup de chrétiens évangéliques, catholiques, orthodoxes. Il y avait énormément de jeunes pasteurs et leurs femmes, des pasteurs plus âgés aussi, leurs enfants, etc. Les prédications étaient excellentes. La communion, la joie entre nous était excellente. Les chants étaient excellents et tout. Et un jeune pasteur, un jour, s'est approché de moi. Alors là, c'est très embêtant. Quand on se croit malin, et qu'on a de l'âge, et qu'on voit arriver quelqu'un qui a 15-20 ans de moins, au moins 15 ans de moins. Un jeune pasteur, qui est à Philippeville, ou dans ce coin-là, maintenant, Jim, m'a dit, vous n'avez rien demandé à Dieu? J'ai tellement de choses à demander à Dieu, je ne sais pas laquelle. Je lui réponds. Alors il me dit, mais écoutez, venez à la prière dans 2 jours. Et si c'est comme ça, demandez au pasteur de vous imposer les mains. C'est une affaire très sérieuse qui vous concerne. Ouh là là, imposition de main. Et alors j'y suis allé avec mon épouse. Nous avions de la crainte, parce que nous n'aimons pas les choses sensationnelles. Mais ce n'était pas très démonstratif. Beaucoup de gens priaient et ne nous regardaient pas. Ceux qui s'avançaient n'étaient pas dévisagés, regardés comme des bêtes de foire. Et le pasteur, en posant les mains sur nous, a dit « Comptez sur les seules forces du Seigneur. Le Seigneur connaît votre chemin. C'est lui qui l'a tracé. Vous devez marcher derrière lui. » En allant à ma place, j'avais très mal au bras gauche. Très mal. Et je me suis dit « Je n'irai plus jamais dans ces réunions. C'est trop pour moi, je suis cardiaque. » Et pratiquement, un homme s'est levé en disant « Il y a une personne là-bas qui a très mal au bras gauche. » Et moi je lui dis « Comptez sur les forces du Seigneur. N'écoutez plus les pensées et les voix qui vous parlent à vous, qui viennent de Satan. Courez, 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 courez toujours, en croyant que c'est pour Dieu. Marchez derrière le Seigneur, par sa seule force. » Et la douleur de mon bras est partie, je suis sorti, assez abasourdi, perplexe, me demandant si c'était pour quelqu'un d'autre ou pas. J'ai mis toutes les valises dans la voiture en disant à ma femme, on partira avant les autres. Et en fermant, j'avais les bras, je tenais le capot. Quand le capot, j'allais l'abaisser, un coup de vent est arrivé et des arbres énormes, des sapins d'un mètre de diamètre, se sont trouvés cassés un mètre de haut par un vent. Un vent de quelques secondes, une ou deux secondes, brisé sur la route, impossible de repartir. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu ne veux pas que je retourne. Et j'ai donc été voir ce pasteur qui m'a dit, mais Jean, le Seigneur veut que tu marches derrière lui. Tu as toujours couru devant lui. Un disciple, ça suit son Seigneur. Il faut changer. Et tu dois te nourrir de sa parole, non plus de tes pensées. Je me dis, c'est un protestant qui parle, je veux aller voir un catholique. Et donc j'ai été voir, mais je vous dis les choses honnêtement. C'est embêtant peut-être s'il y a des baptistes qui m'écoutent. Je veux aller voir un catholique. Et je vais voir un prêtre, un jésuite, qui avait sauvé la vie à Marie-Hélène, juste pile 35 ans avant. Il était missionnaire en Afrique, et le docteur avait dit à Madame Laurent d'avorter de son cinquième enfant, parce qu'elle avait déjà eu 4 césariennes. 4 césariennes en Afrique? Mais c'est mortel la cinquième. Donc, avortez, madame. Madame Laurent n'était pas contente, et le petit enfant dans son ventre non plus avait peur. Et un jeune missionnaire, jésuite, Marc de Quérigny, très intègre, dit, Dieu vous a donné cet enfant, gardez-le. J'ai 2 frères médecins à Bruxelles. Vous partirez 2 mois avant l'accouchement. Vous garderez cet enfant et vous reviendrez 2 mois après. Vous allez dans ma famille. Ce qui fut dit fut fait. Madame Laurent eut la grande opération et le petit enfant s'appelle Marie-Hélène Laurent. Sauvée par grâce, par un homme de conscience, un homme droit, qui craint Dieu et qui aime Dieu. Marc de Quérigny. Donc c'est lui que j'ai choisi pour aller le consulter. Je vais le consulter et je dis, Marc, que penses-tu pour Marie-Hélène et moi? Comme ça. Il me regarde et il me dit, mais Jean, tu recommences ton ministère demain. Tu as abandonné le ministère de prêtre catholique. Je ne sais pas comment tu vas servir Jésus-Christ, mais tu vas le suivre. Dieu est tout-puissant. Je ne sais pas comment.
Allô?
Alors nous sommes retournés et le lendemain matin, à 7h du matin, chers amis, à 7h du matin, un coup de téléphone. Un ancien client, Michel, qui habite Blé, téléphone.
Vous êtes chez Jean Bailleux, vous n'êtes pas chez Madame Bailleux.
Ce copain, téléphone. Mais c'est un athée. Il dit, j'ai à côté de moi à l'hôpital un homme qui s'est jeté de 15 mètres du haut de l'hôpital. Le toit était plat, il a couru. Il a tellement couru vite qu'il a loupé le trottoir, il voulait se suicider. Et il est tombé dans l'herbe qui était mouillée. Et il était planté comme 2 poros, un pied cassé. Pas tué, pas mort, un pied cassé simplement. Et j'ai pensé à toi, il faut que tu ailles le voir. Il m'a dit qu'il voulait recommencer. Ouh là là. Donc ma femme et moi, on se met à genoux et on prie, Seigneur, mon Dieu, puisqu'on nous a dit que le ministère commençait aujourd'hui, Seigneur, Jésus, conduis-nous. Je vais partir à l'hôpital, mais j'y vais si tu viens avec moi. Si tu passes devant moi, Seigneur Jésus. Là, j'ai compris le ministère. Et je voudrais que vous compreniez que votre vie chrétienne, c'est Seigneur Jésus, passe devant moi, je te suis. Mais pas, c'est pas de la romance. Ça doit être une réalité, une conviction vécue. Donc je suis allé à l'hôpital et là, on m'a ouvert la chambre, il y avait 3 serrures. Il était lié sur le lit avec des grosses sangles, comme vous voyez sur les camions pour tenir les bâches, 3-4 grosses sangles, tellement il était fou furieux. Et il y avait des barreaux aux fenêtres et des verres blindés. Cet homme s'appelait Jean-Paul. Et je dis, Jean-Paul, le monsieur qui est à côté de toi, Arlon, m'a dit de venir te voir. Et c'était à l'hôpital de Messancy, à cette époque-là. Je suis venu. Il paraît que tu veux te suicider encore. Tu veux recommencer. Oui, je recommencerai. Mais Dieu ne veut pas que tu meures, mon ami. Dieu t'aime, c'est ton papa. Tu m'entends? C'est ton papa. Est-ce que tu connais Dieu? Non. Est-ce que tu veux qu'on lise la Bible un peu ensemble? J'ai lu 2 passages de la Bible. Et après, il écoutait attentivement. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je peux prier avec toi? Alors j'ai prié avec cet homme d'environ 33 ans, 34 ans. J'ai prié et ce qui s'est passé, eh bien évidemment, il était d'accord. Il a répété avec moi la prière. Il ne s'est pas converti. Il a accepté d'écouter la parole de Dieu. Il a accepté de ne plus jamais se suicider. Il a accepté d'écouter la parole de Dieu. Je lui demande, n'ôtez pas trop la foi, de ne plus recommencer et d'écouter la parole de Dieu. Et de aimer la vie que Dieu lui donne et d'aimer Dieu. Pour le reste, vous savez, il fallait encore le revoir. Hein? Le travail est long après. Et il a dit amen, je suis parti. 2 jours après, on me téléphone de l'hôpital. Monsieur Jean-Paul X sort de l'hôpital avec un tout petit médicament pour dormir, c'est tout. Pas énorme.
Et
c'est fini, il est sorti. 2 jours plus tard, on me rappelle, jeudi, pouvez-vous venir à l'hôpital? Monsieur le grand chef de l'hôpital vous réclame, il voudrait vous voir. Je tairai le nom de ce monsieur, par respect pour lui. Et donc je vais à 9h, le vendredi, à la porte d'une grande salle, un grand bureau. Je toque, oui, entrez. Et monsieur, un tel, un docteur, chef de l'hôpital de Messancy, était assis et tout le personnel qui travaillait pour lui, debout en blouse blanche, à gauche et à droite, en train de me regarder. Le grand Sanhédrin, si vous voulez. Je kiffe. Pour moi, ce jour-là, c'était comme ça. Monsieur Untel, vous avez quelque chose à me dire? Je suis venu, je vous écoute. Il se lève et il commence à hurler. Espèce de salopard évangélique qui venait voler mes clients. Espèce de salopard évangélique. Il hurlait comme un putois, un goré. Et chers amis, ce jour-là, moi qui ne savais pas, à la sortie de ce séjour en Natois, moi qui étais un catholique sur la touche, un prêtre ouvrier, un défroqué, dont personne ne voulait, dans l'autogestion, mais dont le copain avait quitté parce que je croyais en Jésus ressuscité avec ma femme, voilà-t-il bien que ce dingue m'a dit où j'étais. J'étais un chrétien évangélique. Et le qualificatif à côté, un salopard. Je suis parti très heureux. Parce que je savais que quand on suit Jésus, on n'aura pas toujours des fleurs. On aura des ennemis. J'étais heureux les affligés, car ils seront consolés. J'étais consolé direct. Je savais ce jour-là que j'étais un évangélique. Parce que je marchais derrière Jésus et que je acceptais de chercher sa volonté et de vivre sa parole. On m'avait demandé cela et j'étais prête à le faire. Donc un chrétien évangélique, c'est quoi? Mais c'est un chrétien comme il y en avait à l'époque de Jésus. Tous ceux qui ont servi Jésus, qui ont aimé Jésus, étaient des chrétiens évangéliques. Pourquoi? Parce qu'ils vivent l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? C'est Jésus ressuscité. Crucifié pour nos péchés et ressuscité. Jésus vivant au siècle des siècles. Alors, que puis-je vous demander? Que puis-je vous dire? Réfléchissez à ce que je viens de dire. Rien ne vous oblige à devenir un chrétien. Mais ne faites surtout pas semblant d'être chrétien. Parce que Dieu n'aime pas ça. Le diable aime bien ça. Le diable va vous rôtir dans la crainte, dans les doutes, dans les angoisses, etc. Mais cherchez la face de Jésus. Si vous aimez Jésus, vous aimez le Père. C'est ce qu'a dit Jean dans son épître. Si vous avez le Fils, vous avez le Père. Si vous donnez votre vie à Jésus, vous lui appartenez. Si vous appartenez à Jésus, vous appartenez à Dieu le Père. Alors, à ce moment-là, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Prenons Romains 8. Pourquoi est-ce que j'ai dit tout cela? Les accidents mortels que j'ai échappés ne m'ont pas réveillé ma conscience. 2. La vision n'a pas achevé en moi le travail. Les signes ne construisent pas la foi. Ils aident la foi. Quand ils viennent de Dieu. Parce qu'il y a d'autres signes qui viennent du copain d'en dessous. Le diable. Mais le jour que j'ai vu les arbres cassés, j'ai vu l'autorité de Dieu. J'ai pensé à Élie avec la montagne qui cassait par le vent. Et je me suis dit, oulala, fini de discuter cette fois-ci. Là, c'est du sérieux plus que sérieux. Il a fallu 3 heures pour les pompiers. Et quand j'ai vu ce pasteur dire la même chose et ce prêtre, très fidèle à Dieu, très sincère, très attaché à la parole de Dieu, dire la même chose. Le lendemain, je commençais mon ministère et 4 jours après, j'étais bombardé, chrétien évangélique, salopard. Je savais où j'en étais. Chers amis, vous ne devenez pas chrétien pour vous-même, vous devenez chrétien avec Christ, pour Christ, en lui. Et tant pis, ce qui arrivera, il sera toujours là pour nous aimer et nous soutenir. Il faut rire des difficultés. Il faut rire des épreuves, parce qu'il est toujours là avec nous. Tandis que les autres, qui n'ont personne dans leur cœur et leur vie, ils tremblent pour tout. Ils ne savent même plus rire. Ils ne savent même plus se réjouir profondément et s'endormir en paix. Médicaments, psychologues, psychiatres, thérapie, faire des doudous dans les centres de soins, de sérénité, etc. Non, merci. Romains 8. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon l'humain, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, donc votre nature, il est vrai, est mort à cause du péché. Ce Christ est mort. Ce corps venu d'Adam et Ève par les parents est mort. Il est mort à cause du péché. Et si Christ est en vous, alors l'Esprit de vie est venu en vous à cause de la justice, à cause du pardon de Dieu. L'Esprit de vie vient dans un corps de mort, un corps, un être humain séparé. Il vient pour lui donner la vie. Si Christ est en vous, il est vrai que le corps est mort à cause du péché, mais si Christ est en vous, alors l'Esprit est vie à cause de la justice, c'est-à-dire du pardon de Dieu, à la croix. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps de chair mortels par son Esprit qui habite en vous. Verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de peur, de servitude, pour être toujours dévoré par la peur. Vous avez reçu un esprit d'adoption, d'enfant adoptif, par lequel nous crions tous « Papa, Père ». Un enfant, un être humain qui a réellement donné sa vie à Jésus, s'adresse à son Père du ciel. Pas une statue de la Vierge ou d'un saint, pas un chapelet. Il s'adresse à son Dieu vivant, son Papa. Tout d'un coup, en retrouvant Jésus, en acceptant Jésus, l'Esprit Saint en nous, nous fait toucher le fond de notre vie. C'est notre Papa, le fond de notre vie. Notre Papa du ciel, qui nous a toujours aimés, dont nous étions séparés par le péché. Donc, chers amis, l'Esprit Saint est le don suprême que Jésus fait à ceux qui veulent l'aimer et lui obéir. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vie. Alors vous n'êtes plus dans un être de mort, vous n'êtes plus dans un être de souffrance. Vous avez encore des difficultés dans la vie, mais à ce moment-là, vous avez cet Esprit de vie. Vous avez la vie éternelle aujourd'hui, tout de suite, le jour que vous donnez votre vie à Jésus. C'est pourquoi dans Jean, chapitre 5, Jésus dit ceci, au verset 24, « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et la met en pratique, la parole de Jésus, qui croit à celui qui m'a envoyé, Dieu le Père, à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. » Tout ce que je vous ai dit là, réfléchissez, lisez les évangiles, méditez les évangiles, oubliez-moi et vous passez de la mort à la vie. Et si vous êtes déjà passé dans la vie, accomplissez la volonté de Dieu. Portez la vie aux autres. Apportez la vie aux autres. Si la vie est venue en vous, la vie divine, vous n'êtes pas égoïste. Vous partagez l'abondance de votre cœur. Alléluia. Nous sommes lundi à mercredi, 18h.